voici en dernière portion d'émission. C'est Evelyne Charruet qui est avec vous. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait et par la suite, on va discuter ensemble de traditions québécoises. On entend là, c'est un extrait du disque « Quand violon trad » qui a été lancé en juin dernier. C'est disponible sur le site Internet du Camp. Parce que cette semaine, à Saint-Côme, dans l'Anaudière au Québec, il y a une centaine de musiciens qui sont réunis pour la 16e édition du Camp violon trad. C'est un événement qui a pour but de transmettre et de valoriser l'identité québécoise à travers son répertoire musical. La musique là qu'on a entendue, c'est tiré de cet album-là, qui regorge de pépites trad de ce genre-là. Et on a pris un peu ce prétexte, la tenue du camp de violon trad, pour parler de transmission. On s'est demandé comment on peut protéger, valoriser notre patrimoine culturel pour éviter qu'il s'efface. Et on reçoit ce matin trois passeurs pour en discuter. J'ai avec moi en studio Yaël Azoulay. Bonjour.
Bonjour.
Danseuse, chorégraphe spécialisée en danse percussive et gigue québécoise. Gigus, c'est un camp pour les enfants, c'est ça?
Le Club Gigus, c'est une école, en fait. Oui, on offre des cours dans six régions du Québec. Donc, c'est une école de gigue pour les enfants puis pour les adultes.
Quand on parle de transmission, exact. On y est complètement. À vos côtés, Nadine Bérard, bonjour.
Bédard.
Conteuse, oui. Chanteuse de répertoire de tradition orale également. Formée en ethnologie, ça c'est intéressant, on va y revenir tout à l'heure. Et on a aussi au bout du fil Éric Baudry. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors, cofondateur du camp de violon traditionnel québécois de Lanaudière, pourquoi avoir lancé ce camp-là d'abord?
Ben nous, l'idée du camp nous est venue, moi et André Brunet, un des autres membres fondateurs, on enseignait régulièrement, mais plus particulièrement en 2006, un camp qui s'appelle Valley of the Moon dans les Redwoods californiens, qui est un camp qui était dédié à l'apprentissage des traditions écossaises. Puis, eux ont l'habitude d'inviter des professeurs d'autres cultures. Puis, c'était vraiment en participant à ce camp-là, pendant 2 années consécutives, qu'on a eu l'idée. On a dit qu'il faut absolument créer un camp comme ça chez nous au Québec. Puis, de là est partie l'idée. Puis, depuis 2007, qu'on l'organise ici, dans l'Anaudière.
Mm-hmm. Et là, les gens, est-ce que ce sont essentiellement des Québécois, des Québécoises?
Il y a un grand bassin, évidemment, de Québécois, Québécoises. On a des gens de toute place du monde ici. On a des Européens, on a des Californiens, des Américains, des gens d'un peu partout au Canada anglais. C'est vraiment un camp en formule internationale. Puis à chaque année, on a des gens qui nous arrivent même on a eu même des gens qui venaient du Japon.
Japon, OK. Qui viennent apprendre la musique québécoise. C'est un camp de violon, mais il y a d'autres instruments, je présume?
Oui, à la base, c'est le violon, mais il y a aussi les méthodes d'accompagnement à la guitare et au piano. Puis cette année, pour la toute première fois, on a l'accordéon diatonique.
L'accordéon, c'est vrai que c'est joyeux. Ouais. Hein, quand on entend ça, on a envie de danser tout de suite. Qu'est-ce que ça prend comme habileté pour jouer de la musique trad, Éric?
En fait, nous aussi, c'est un camp qui est beaucoup basé sur l'apprentissage à l'oral. Ça veut dire que c'est vraiment à l'oreille. On travaille pas avec des partitions de musique. Donc, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. On dit de 6 à 99 ans, parce que c'est vraiment tout âge. On demande idéalement une petite base d'apprentissage, comme au moins peut-être 2 années pour le violon, particulièrement parce que c'est pas nécessairement un cours d'initiation où on part de zéro. Mais quand même, c'est assez facile de s'y intégrer à différents niveaux parce qu'on a de débutants à experts aussi, en fait, okay. Surtout dans les temps de violon.
Ouais. Éric, vous avez fondé ce camp-là il y a 16 ans. À quel moment le trad est rentré dans votre vie?
Ah ben, il a toujours été là. Moi, je viens de Saint-Côme, mon village natal. Puis particulièrement ici, c'est que les traditions familiales ont toujours été là. Ça veut dire que dans les familles, dès ma naissance, les gens chantaient déjà beaucoup des chansons traditionnelles. Ils jouaient des instruments comme le violon, la guitare, l'accordéon. Ça a toujours fait partie de ma vie, en fait.
Est-ce que Yaël, c'est un peu le même cas, non?
Ah non, pas du tout. Moi, dans le fond, j'ai grandi à Laval et je suis fille de deux parents immigrants, donc de France et du Maroc, fait que j'ai pas eu cette attache-là, j'ai pas ça dans ma famille du tout. Je suis tombée dedans étant petite.
Ah oui? Quand? Comment?
Quand comment, à l'âge de 8 ans environ, j'ai joint les Pieds Légers de Laval, une troupe de danse folklorique qui ma mère m'a inscrite là parce que je voulais bouger, je voulais danser, j'étais curieuse. Et c'est ça, c'est des grands voyageurs aussi, mes parents, fait qu'on voyageait beaucoup. Et dans les troupes de danse folklorique, on apprend des danses d'un peu partout à travers le monde. Mm-hmm. Et aussi, évidemment, le folklore québécois. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai découvert la gigue, les danses traditionnelles québécoises, et que j'ai eu la chance après de faire la démonstration de ces danses-là dans des festivals de folklore à l'étranger. Mm-hmm. Et là, de découvrir que ben il y a des gens comme ça un peu partout dans chacun des pays qui viennent puis qui portent cette fierté là et qui présentent un peu leur tradition, fait que ça a été comme ça moi que je suis tombée dedans
pour en faire une carrière qui ne cesse plus. En fait, c'est vraiment votre gagne-pain maintenant.
Oui, ben ça a été mon gagne-pain in and out, on va dire. J'ai aussi un travail comme agente d'artiste, mais aussi auprès d'artistes qui œuvrent dans le milieu trad. Fait que ça me suit depuis ce temps-là. En fait, à partir d'enfant, j'ai appris à danser, puis à partir de l'âge d'environ 17 ans, j'ai voulu apprendre à caler, puis à animer des veillées de danse, puis le côté plus pédagogique, puis justement l'aspect de la transmission s'est intégré à partir de ce moment-là. Puis ouais, j'arrête jamais d'apprendre dans le fond, puis de voyager, puis de découvrir aussi. Ouais, c'est ça.
Si vous vous demandez à quoi ça ressemble une calleuse, écoutez ceci.
Oh boy!
Tout le monde par la main en foule en moment et puis dans le milieu encore une fois. Les femmes au milieu, les hommes par la gauche, changez de côté puis revenez. On salue la dernière, on soigne le suivant. On soigne la suivante et puis roule ta cabine et puis soigne mandoline et puis roule ton jupon. Soigne ton mandolin, soigne la femme, c'est pas mal dans le corps.
Mais c'est presque du rap, Gaëlle!
Non? Ouais, c'est toujours drôle de s'entendre caler. Oui, c'est presque du rap, du slam. Même, je veux dire, cet extrait-là est tiré d'une pièce de Bon Débarras, là, qui fait l'hommage un peu des calleurs, des calleuses. Puis c'est Dominique Desrochers, il slam, puis il cale avec tout un vocabulaire de danse. Fait que, oui, absolument, on rap, là, pendant 4 heures de temps, sans arrêt. Puis c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cet art-là, en fait.
Ouais. Nadine, de votre côté, est-ce que le trad a toujours fait partie de la tradition familiale ou c'est arrivé à l'enfance?
Pas du tout. Moi, c'est arrivé à la quarantaine.
Oh!
En fait, je savais pas, mais mon arrière-grand-père, qui était agriculteur, était aussi conteur et chanteur. Et puis, il faisait ça pour le fun, là, d'un veillé. Et j'ai découvert ça après être devenue conteuse, être allée faire une formation dans les archives. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait du matériel sur lui. Donc moi, chez moi, ma mère me contait des histoires quand j'étais petite, comme tous les enfants. Mais c'est vraiment dans la quarantaine où je suis allée dans une maison de la culture. Il y avait des contes, un festival. J'ai pris le dépliant, je suis allée voir des soirées. Puis j'ai revu Claudette Lheureux, qui est une conteuse de la première heure là, du renouveau du conte et qui donnait des ateliers, ça s'appelle les Praticontes. Et puis elle dit toujours c'est la maternelle du conte. Fait que j'ai suivi son atelier, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais vraiment par curiosité, par coup de cœur. Puis après ça, bien, la suite, ça fait 18 ans de ça.
Oui, mais votre arrière-grand-père, il y avait des archives de ses contes?
Ben oui, j'ai fait une formation au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Tu sais, le beau musée fait en rond, là.
Oui.
Et puis, il y a des archives là-dedans de Marius Barbeau, évidemment. Mais il collaborait avec un archiviste de Montréal qui s'appelle Édouard Zotique-Mascotte, qui, lui, allait collecter des personnes âgées dans les campagnes. Fait qu'on sait pas trop comment il était en contact avec mon arrière-grand-père parce qu'il vient de Saint-Rémy-de-la-Pierreville qui est en Montérégie, puis lui il était à Montréal. Mais j'ai des hypothèses que je présente, je fais un spectacle sur lui là. J'ai des
hypothèses. Qu'est-ce qu'il faisait à Montréal?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il allait vendre ses légumes au marché Bonsecours, puis Mascotte se promenait dans le marché puis cherchait des porteurs de tradition. Fait que je l'imagine en train d'étaler ses légumes, il chantait en étalant ses légumes mais il y a aussi plein d'autres pistes à part lesquelles ça devait arriver. Mais je sais que Mascotte, lui, il arrivait dans un village puis il disait, y a-tu des vieux qui chantent, qui comptent, qui, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, il partait. Tu sais, il demandait au curé. Le curé connaissait tout le monde.
Bien sûr, dans ce temps-là, oui.
Ça a commencé comme ça. Ça veut dire que la chaîne de transmission s'est brisée. Il faisait surtout de la chanson, moins du conte, là. Puis moi, j'ai commencé à compter. Fait que, tu sais, je trouve que c'est fascinant, tu sais, la transgénéalogie puis la psychogénéalogie.
Ah,
on peut
aller
fouiller là-dedans. Là,
oui, certainement.
Parce que moi, j'ai toujours senti que j'étais comme une imposteur. J'ai fait ça pour le fun, parce que j'ai étudié en littérature. Puis j'aimais ça compter, puis je me disais, ah, d'un party de famille, c'est le fun. Mais là, quand j'ai su ça, c'est comme si ça m'avait donné une légitimité.
C'est vrai, le syndrome de l'imposteur.
C'est ça.
Ce qui vous réunit tous les trois, et c'est fascinant, c'est que vous avez tous les trois, Éric, Yaël et Nadine, fait un travail de collecte sur le terrain. collecter des vieux? Comment ça se fait, Nadine?
Bien, c'est venu justement avec ma découverte des archives. Là, j'ai commencé à suivre la formation en ethnologie. Puis dans le cadre de la formation, on avait de la collecte à faire. Dans ma région, la MRC des Jardins de Napierville, en Montérégie, bien, on a proposé un projet à un organisme. Et avec mon amie Marie-Pierre Fournier, on est allé collecter les personnes âgées. Donc, on a fait des activités dans les 10 villes et villages. On se mettait dans une salle communautaire, tout le monde en rond. On les faisait chanter, compter, on les collectait. Puis, on a fait un livre CD avec ça.
Mm-hmm.
Je pourrais vous parler de ce que ça nous a fait découvrir avec le temps. C'est-à-dire que des fois, on ne trouve pas ce qu'on avait prévu, ce qu'on cherchait.
Ah, ce n'était pas des comptes, finalement, que vous
ben
avez
oui, il y en avait, mais on a laissé de côté d'autres pratiques traditionnelles qui, à la fin de notre formation, en continuant de suivre les cours, on s'est rendu compte qu'on a laissé de côté des choses, des petites pépites d'or qu'on aurait dû exploiter puis qu'on n'a pas exploité parce qu'on focussait compte chanson. Et puis, finalement, ben, tu sais, il y avait un monsieur qui faisait des bonhommes gigueurs, un autre monsieur qui faisait de l'art populaire, tu sais, bon. Fait qu'aujourd'hui, on le regarde différemment.
On voit la valeur, en fait, de
oui,
tout ça.
Oui.
Éric, de votre côté, vous avez fait ça longtemps, collecter des chants, des chansons, des reels?
Oui, je l'ai fait beaucoup, principalement à Saint-Côme, ici, en 2001 particulièrement, j'ai fait un gros projet de collectage avec 16 chanteurs et chanteuses aînés du village qui sont tous disparus pour la plupart aujourd'hui. Mais c'est un projet de sauvegarde du répertoire pour remettre les chansons dans les familles, c'est ce que je l'ai fait. Je l'ai fait quand même un travail important, surtout sur la chanson. Et après coup, j'ai aussi récupéré un paquet de documents audio sur du rubat, sur que les gens avaient conservé pour tout numériser et sauvegarder pour la plupart disponible à la bibliothèque municipale. Mais après coup, je l'ai fait aussi parce que comme musicien, j'ai voyagé beaucoup. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup et d'abord pour chercher du répertoire pour mes propres groupes, puis par la bande. Mais là, oui, je me suis ramassé en Gaspésie, il n'y a pas eu des disques avec des joueurs de violon, puis des joueurs d'accordéon, tout ça. Non?
Donc, c'est vraiment les aînés, finalement, qui sont porteurs de cette tradition-là. Est-ce que c'est vrai aussi en danse, Yaël?
Ah oui, absolument. Je pense que les personnes que je collecte en ce moment au niveau de la gigue ont environ entre 75 et 85 ans, mettons, tu sais. Fait que c'est oui, on est quand même là-dedans. Au début, je pense que au début de ma pratique, c'était même pas, je le voyais pas, je savais pas que c'était de la collecte ou quoi que ce soit. C'était plus pour de l'apprentissage. C'était plus pour essayer d'aller apprendre des nouveaux pas avec certains gigueurs.
Ouais.
Puis avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'en fait, de faire cette démarche-là, ben, c'est ça, c'est pour collecter, pour ramasser un peu du vocabulaire de tout le monde, de se l'approprier, puis après ça, de pouvoir à notre tour le transmettre. Fait que cette espèce de chaîne, elle s'est installée avec le temps. Puis maintenant, je pense que je suis plus dans un sentiment d'urgence de vouloir justement découvrir, trouver, en tout cas, ce qui est là sur le territoire un petit peu plus de manière organique dans les maisons qui existent, des personnes qui n'ont pas eu la chance de pratiquer ça sur une scène ou quoi que ce soit, puis d'aller ramasser ces pépites-là pour découvrir, dépoussiérer des choses.
C'est vrai qu'il y a une urgence. Vous le sentez aussi, Nadine?
Ben oui, parce que justement, Marie-Pierre et moi avons créé un spectacle à la suite de notre collecte, puis on a un livre CD avec ça. Puis hier, on regardait dans le livre nos 40 porteurs de tradition, combien étaient décédés.
Mm.
Puis la plupart sont décédés, malheureusement. Fait qu'on se dit, bien, il y a au moins les a collectés, mais il faut que ça se continue. Après, il faut que les gens continuent à chanter les chansons puis à raconter les histoires. T'sais.
Oui, c'est ça. Il y a la question de la transmission. C'est une chose de documenter, de collecter, mais ensuite, il faut intéresser des gens et transmettre tout ça. Éric, de votre côté, ça passe par l'enseignement, ça passe également par le cantrade. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que l'intérêt est soutenu? Est-ce qu'il y a une relève en trade?
Oui, une relève. Juste, je pense qu'on avait créé, nous, à l'époque, un groupe qui s'appelait La Galvaude. Au début des années 90, il n'y avait pas de jeunes qui faisaient de la musique trad sur scène. Puis on dirait que depuis ce mouvement, il y a eu un mouvement de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont de très bons musiciens trad, qui apprennent beaucoup, qui sont très curieux. Oui, moi, je pense que plus que jamais, il y a une très belle relève. On le voit ici au camp, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont parmi nous. La moyenne d'âge est quand même assez jeune. Il y a une belle participation. Moi, je suis enseignant aussi au Cégep de Joliette, où on a un programme de trad qui est là depuis 20 ans. Des petites cohortes, mais quand même, ça évolue bien tout le temps. Puis oui, on sent qu'il y a un engouement et une curiosité pour ça.
Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai aussi, il y a une popularité de la gigue, des soirées de call, Yaël?
Bien, je pense que oui. En tout cas, depuis le retour après la pandémie, les veillées de danse, les jams de musique traditionnelle ont connu vraiment une grosse popularité. Là, la dernière année, ça a été très, très, très fort, les taux de participation. Les gens avaient besoin de ça, avaient besoin de se voir, avaient besoin de se toucher, puis d'avoir du fun ensemble dans une activité vraiment sociale, rassembleuse, puis pour partager. Fait que oui, puis je pense que tu sais, c'est comme un mouvement qui connaît des hauts et des bas, mais qui est quand même en constante croissance au fil des dernières 25 années, mettons, on va dire.
Ouais.
Fait que oui, je pense que ça va quand même bien, puis c'est notre objectif, là, c'est ça demeure toujours ça, d'avoir une relève, d'être capable d'aller au plus jeune possible aussi vers les enfants,
ouais.
Intégrer le système scolaire, les écoles, tu sais, ça demeure encore des objectifs.
Parce qu'ailleurs, les cultures traditionnelles sont très valorisées. Je pense à l'Irlande, qui a une chaîne de radio dédiée exclusivement à la musique traditionnelle. C'est enseigné dans les écoles.
Ouais.
Ici, le conte, la danse folklorique... La musique traditionnelle occupe quelle place, Nadine?
Bien, le conte, il est dans les écoles par le programme La culture à l'école. Les artistes conteurs vont dans les écoles faire des ateliers, mais c'est axé plus sur leur démarche artistique que sur leur apprendre à compter. T'sais, si les écoles, les profs sont intéressés, ils peuvent donner des ateliers. Mais moi, là où je sourcille, mon visage parle, c'est par rapport au conte trad. Parce qu'actuellement, quand il y a eu le renouveau du conte dans les années 90, il y avait une poignée de conteurs qui comptaient, les Jean-Marc Massy, Alain Lamontagne, Michel Faubert, Jocelyn Bérubé, Claudette, etc. Puis là, aujourd'hui, bien, il y a au moins 200 conteurs au Québec, en tout cas membres du regroupement du conte au Québec. T'sais. Mais il y a de tout.
Oui.
Toutes les déclinaisons possibles entre le noir et le blanc, les niveaux de gris, de ce que c'est compté.
Humoristique, traditionnel, supernaturel, tous les styles sont représentés.
Tous les styles sont représentés, puis c'est beaucoup du conte de création. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du conte de répertoire de tradition orale. Il en faut, qu'on en aille dans notre répertoire parce qu'on en demande, soit dans des festivals, soit dans les écoles, etc. Mais ce n'est pas la majorité. On n'est même pas... On ne peut pas tenir sur une main le nombre de conteurs-conteuses qui font vraiment que du trad. Moi, j'ai fait le choix que je fais que du trad. Tu sais.
Mais comment vous expliquez ça?
Bien, c'est l'époque aussi. Les gens, on est plus portés à parler de soi ou en tout cas de faire le récit d'aventure. Tu sais, donc, on est plus près du récit de vie que du conte. Tu sais. Michel Faubert, il dit qu'il n'y a plus de conte, il n'y a que des conteurs. Mais en tout cas, il fait de l'ironie, je le sais. Mais c'est ça, c'est que tu sais, d'aller écouter des aînés dans les archives, écouter ces voix-là, même s'il y en a qui disent « Ah, oh, mon Dieu, il était plate, là, tu sais, parce qu'il y avait une voix monotone, tout ça », mais écouter les aînés, prendre ces contes-là, puis le défi, c'est de les faire résonner aujourd'hui, comme le conte merveilleux, comme les légendes, comme
les épopées. Et là, vous préparez un spectacle sur le célibat.
Et le mariage.
Oui, c'est ça, qui est un sujet éternel, disons-le.
C'est ça le défi, tu sais, c'est de prendre des contes trad puis de dire, hey, qu'est-ce que ça voulait dire dans le temps, puis qu'est-ce que ça résonne aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça le défi.
Vous parlez de Michel Faubert, il est justement au Festival du conte trad. Éric, il va donner des classes de maître, c'est ça?
Oui, Michel est avec nous toute la semaine. Il y a des ateliers de classe de maître en lien avec le répertoire traditionnel, autant au niveau du conte que de sa propre passion pour le violon trad aussi.
Mm-hmm. J'ai envie de vous amener ailleurs dans le monde parce qu'évidemment, quand on est un musicien traditionnel, il y a tout un circuit de festivals, d'événements. Yaël, vous parliez de la danse, il y a de grands rassemblements. Comment est perçue la culture traditionnelle québécoise à l'étranger?
Ben, dans mon expérience, en tout cas, très bien. Tu sais, la culture québécoise, c'est toujours une culture qui va être très, très populaire dans les événements, les festivals à l'étranger. Il y a un côté festif qu'on apporte, c'est certain. Les gens adorent voir des Québécois sur scène. La gigue, c'est quelque chose qui est une danse comme virtuose un peu, qui va être impressionnante. Nos artistes en musique, en danse rayonnent à l'étranger énormément. Tu sais, autant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Europe. Je veux dire, il y a des réseaux extraordinaires au niveau de la musique trad et le Québec fait une super belle figure là, à l'international. Fait que c'est toujours drôle un peu de voir tout ce beau rayonnement qu'on peut avoir à l'étranger, alors qu'ici, localement, c'est un peu plus difficile, peut-être.
Et c'est cantonné au jour de l'an aussi. Hein? Ouais. Vous le vivez, Éric, le reste de l'année, on dirait que notre regard est porté ailleurs.
Oui, mais de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de festivals maintenant au Québec, je dirais. De plus en plus, il y a eu une explosion des événements trad dans différentes régions. Il y en a un à Val-d'Or maintenant, il y en a un Festival Mémorisation à Joliette, il y en a un à Carleton-sur-Mer. C'est vraiment très étendu. Il y a de beaux événements maintenant pour se produire. Évidemment, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y en ait de plus en plus, mais le réseau vraiment quand même s'agrandit de plus en plus, puis fait de plus par défaut beaucoup de fans aussi, des gens qui connaissent pas le théâtre. Quand il y a un festival dans ton propre village ou dans ta ville, ben c'est là que tu découvres des bandes, que tu découvres des groupes d'un peu partout, des musiciens, des conteurs, que tu es en contact avec la danse. Puis oui, évidemment, on est obligé de s'exporter encore beaucoup, parce que pour un musicien traditionnel, le Québec n'est pas suffisant. Donc, pour partir en tournée en Europe, il faut partir en tournée aux États-Unis, puis être dans nos valises, mais quand même, je dirais que la cause trad se porte quand même de mieux en mieux.
Oui, est-ce que la cause conte se porte de mieux en mieux aussi, Nadine?
Ben, il y a plein de conteurs qui vont dans des festivals à l'étranger aussi, oui. Mais c'est ça, puis on voit qu'à l'étranger aussi, ils ont les mêmes réalités. On échange avec des associations, tu sais, dans d'autres, en Europe, en Belgique, puis c'est les mêmes réalités. Mais oui, les conteurs vont compter à l'étranger, en Afrique, en Europe. Il y en a là, des festivals, il y en a plein en France actuellement. Ouais. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est un choix, il faut vouloir le faire, parce qu'on sait ce que c'est beaucoup de travail, c'est fatigant, voyager.
Oui,
ça paraît bien faire des voyages, mais c'est de l'ouvrage.
Je pense que le milieu trad s'organise bien pour, tu sais, le réseau des festivals, le réseau des veillées de danse. Je pense que notre milieu a toujours été capable de faire de très grandes choses avec très peu de moyens. Fait que je pense que c'est pas tant le milieu en tant que tel qui a besoin d'aide maintenant, mais je pense que ça serait une volonté plus politique d'aller dans les sphères que nous, on peut pas nécessairement aller facilement, au niveau du financement, au niveau des écoles, justement, dans la formation. Fait que je pense que c'est là qu'il faudrait pousser pour que, comme vous disiez tantôt, en Irlande, il y a une radio trad, mais il y a une télé trad aussi, puis tu sais, il y a des désignations qui ont été faites, il y a quelque chose qui est conscient dans la population qu'il faut mettre de l'avant. Fait que je pense que c'est de ce côté-là, parce que le milieu, c'est vrai qu'il est effervescent, là, puis les gens font énormément d'initiatives extraordinaires.
Ouais. Le temps file. Vous vous sentez investi d'une grande responsabilité, j'imagine, tous les trois, par rapport à votre discipline, Nadine?
Oui. C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Puis je suis toujours en questionnement à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que le conte de tradition orale puisse se perpétuer. Puis comment est-ce qu'on... Tu sais, si j'avais une seringue pour injecter ça chez les jeunes, j'aimerais bien ça.
Oh,
mais...
ça puis d'autres choses. Hein?
Mais tu sais, vraiment, il faut continuer. Il faut aller dans les écoles. Il faut parler avec le gouvernement. Tu sais, on travaille aussi sur la désignation du conte, c'est au patrimoine. Puis,
ouais. Et de la GIC aussi.
Et de la GIC, c'est ça.
Ouais. Ça changerait quoi, rapidement?
Ben, si on réussit à avoir des belles actions concrètes, ça changerait au niveau du financement, justement, pour tous les organismes qui œuvrent en gigue traditionnelle québécoise. C'est ça qu'on souhaite et c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis oui, on a une grosse responsabilité. Oui,
absolument. Éric Baudry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler pendant le camp Violon Trad. Je rappelle que l'album, très, très bel album que j'ai écouté de bout en bout, en giguant très, très mal chez moi, c'est disponible sur violontradquebec.ca. Merci encore. Yaël Azoulay, porte-parole du Festival Trad Montréal, qui a lieu bientôt. Ça s'en vient le 30 août au 3 septembre dans Huntsic. Vous allez être calleuse lors d'une veillée de danse du 2 septembre.
Oui.
C'est toujours festif, ça. Hein?
Toujours. C'est un super beau festival, Parc Huntsic, Maison de la culture à Huntsic. Ouais.
Vous êtes aussi co-directrice du club Gigus, qui propose des cours de gigue en personne et en ligne. Mais c'est pas de la danse en ligne, là.
Non, c'est des cours de la gigue en ligne.
OK,
Gigue-tu.com. Gigue-tu.com.
Et maintenant, Nadine Bédard, qui présente son nouveau spectacle « Fais à ta tête » le 29 août au Théâtre de l'Esquisse à Montréal. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup.
Et je profite de tout ça pour... en fait, il y aura une émission spéciale de Bruno Blanchet. Vous savez, le 5 à 7 carré, ce samedi, ce sera le sujet de discussion à 17h sur nos ondes. Donc, manquez pas ça si ça vous intéresse. C'est déjà tout pour l'émission. Je m'appelle Évelyne Charruet, je suis de retour demain. J'espère que vous passerez un bon restant de journée. On se retrouve demain matin, 9h.